Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous êtes également l'auteur de Vivant le libéralisme, dette publique, chômage, croissance, pouvoir d'achat, l'actualité économique décryptée, publiée chez Talendier, toute une série de chroniques publiées dans les Échos depuis déjà quelques années. Et puis l'histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous, toujours chez Talendier. Aussi membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro 2. Septembre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, un entretien exclusif où il explique comment lutter contre les fake news économiques et Dieu sait si c'est vrai qu'elles prolifèrent. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de FIPECO.fr, également professeur d'économie à Paris 1. Alors, j'ai mis un sujet pensant à vous sur la fiscalité locale. Parce qu'on dit toujours les impôts, on pense à impôts sur le revenu, mais enfin quand on sort un euro d'une poche, que ça aille à la collectivité locale ou que ça aille à l'État, pour celui qui sort son euro, ça reste un prélèvement obligatoire. Et Erwan Tison, bonjour.
Bonjour.
Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Édition, et donc signé un article dans Le Point que j'ai pas lu, parce que je l'ai appris ce matin, concernant EDF, donc vous nous direz ce que vous voulez dire. Il était 7h10, car si vous ne le savez pas, tous les jours à 7h10, nous avons un débat avec Jean-Marc Daniel. Et là, la question du jour était, est-ce que le pire est devant nous, le pire pour 2023 ? Chacun d'entre nous avons pris une position. Moi, j'étais quand même plutôt bad cop par rapport aux éléments dont je dispose pour 2023. Et Jean-Marc disait, il était good cop, mais quand même. Il y a toujours ces fameux si que nous ne maîtrisons pas. Guerre en Ukraine, situation en Chine. Et donc, on pouvait avoir une année 2023, finalement, connaissant des extrêmes. Si tout se passait beaucoup, beaucoup mieux sur le front géopolitique, on pouvait s'envoler, être bien au-delà des 1% prévus par Bercy. Si tout se durcissait et se compliquait, on pourrait être beaucoup, beaucoup plus bas. Et ce matin, Jean-Marc, voilà ce que dit Vladimir Poutine. La Russie est prête à utiliser tous les moyens de défense, y compris nucléaire, pour se protéger. Ce n'est pas du bluff, déclare Vladimir Poutine. Courte intervention d'une dizaine de minutes. Et il a accusé l'Occident de vouloir détruire la Russie. Est-ce que là, on n'est pas, bon, bascule pas dans du mauvais côté de l'extrême de notre discussion de tout à l'heure?
Ah oui, je pense qu'il y a une menace, encore que il fallait s'attendre à ça. Hein, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que Vladimir Poutine dise, écoutez, je me suis trompé.
Non,
il y a eu un malentendu, rassurez-vous, je me retire de la Crimée. Tout ça, c'était une mauvaise plaisanterie. Bon, je pense qu'effectivement, dans la situation dans laquelle nous sommes, je ferai juste trois remarques. La première remarque, c'est que je pense qu'effectivement, par rapport au schéma de prévision habituel dans lequel vous avez la croissance potentielle, puis le cycle et tout ça,
ah oui.
On n'est plus dans ces circonstances-là. C'est-à-dire aussi bien la récession de 2020 que celle qui menace, si effectivement la situation ne s'améliore pas en termes de guerre en Ukraine, à ce moment-là, elles sont provoquées par des éléments exogènes. Et donc les réponses traditionnelles de la politique économique ne sont pas les réponses qui sont les plus adaptées.
Ça m'amènera à vous demander votre avis sur les réponses de la politique monétaire. Allez-y, continuez.
Sur la politique monétaire, je pense aussi qu'on sort d'une... période où on a beaucoup transformé la Banque Centrale en une espèce de gourou capable de résoudre tous les problèmes.
En trésor, hein, on l'a transformé notamment.
Oui, absolument. Bah, absolument. Et donc, il y a eu la période des années 50-60 où c'était la politique budgétaire, c'était Alvin Hansen qui inspirait tout ça, c'était véritablement full employment and economic policy. Full employment and economic policy. La politique budgétaire nous donnait à la fois l'équilibre en termes des prix, la stabilité des prix et le plein emploi. Et puis après, il y a eu la grande modération, les années 90, c'était Greenspan. Et là, on rentrait d'ailleurs dans la phase un peu religieuse. Et si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, laissez faire, je suis là, rassurez-vous, dormez mes bonnes gens et tout ça. Je pense que maintenant, on est dans la phase où on voit bien, c'était un peu Villeroy de Gallo au moment de la pandémie, je ne suis pas médecin. Ouais. Et donc là, je pense que Madame Lagarde, comme Monsieur Powell, serait en droit de dire, je ne suis pas général.
Oui, mais je pense que...
Je ne suis pas ergénéticien.
J'ose pas imaginer les réactions du monde économique si tout d'un coup Christine Lagarde et Jérôme Powell dans une déclaration commune disent nous ne pouvons plus rien faire.
Voilà. Alors là, écoutez, voilà. Et donc
c'est tout chose à bris. Hein.
Oui, absolument. C'est un des grands enjeux. C'est est-ce que ils peuvent faire accepter l'idée qu'il y a des choses qui leur échappent. Et la troisième remarque que je ferai, c'est sur les déclarations de Poutine. Moi, ce qui me frappe, c'est pas vraiment économique, mais dans les années 60-70, il y avait des soviétologues, des kremlinologues, il y avait tout un tas de gens qui étaient capables de vous dire, vous savez, en réalité, c'est pas grave ce qu'a dit Brechnev, parce que le véritable personnage important, c'est machin, qui est général, qui commande le district à tel endroit, et c'est lui qui est en train de... Et il y avait des gens qui vous disaient, vous savez, Tchernienko, il va pas tenir longtemps parce qu'il y a derrière un petit jeune qui s'appelle Gorbatchev qui va monter en puissance. Bon. Là, maintenant, ce qui me frappe, c'est que personne ne comprend ce qui se passe à Moscou. Il y a personne qui est capable de dire, écoutez, le pouvoir russe, ça fonctionne comme ça. Et donc, ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est-à-dire que les gens qu'on ne comprend pas sont des gens qui sont forcément quelque part incompréhensibles. Et donc, c'est dangereux.
Et d'ailleurs, ceux qui suivent de près et qui connaissent bien la situation considèrent que parmi les trois individus qui sont nécessaires pour engager des armes nucléaires, il y en a deux qui sont considérablement affaiblis. Sous-entendu, il n'y en a que vraiment un qui est en position. J'avais une discussion, Erwan Tison, avec Eric hier. On était, Eric, vous savez, conjoncturiste, on regarde la macro. Et il admettait une forme de désarroi des économistes. C'est un peu pour poursuivre ce qu'on disait avec Jean-Marc. C'est vrai que le zéro Covid chinois, personne ne sait ce que ça devient. La guerre en Ukraine, les propos du jour, même s'ils sont peut-être plus destinés à la population russe qu'à la population mondiale. On a le droit de dire que le pire est-il devant nous, on ne sait pas.
Pire est jamais certain, c'est pour ça justement qu'il faut s'y attendre au pire. L'addition des derniers signes noirs, ce qu'on appelle signes noirs, tous les événements exogènes qu'on ne peut justement maîtriser, montre justement la limite de la prévision économique. Je pense que le rôle de l'économiste ou du conjoncturiste ou du prévisionniste dans ces cas-là, c'est d'ouvrir tous les éventails des possibilités qui s'ouvrent devant nous.
On ne peut presque plus les ouvrir, ces éventails.
Vous pouvez avoir différents scénarios. Alors le problème, c'est justement certains scénarios extrêmes peuvent paraître complètement farfelus, mais ils sont... C'est pour ça aussi la nécessité de ne pas naviguer à vue en prévision, en anticipant les différents signes faibles qu'on peut avoir, là aussi peut-être d'un point de vue endogène. Si on ne peut pas maîtriser ce qui est exogène, on peut peut-être maîtriser ce qui est endogène. Il y a un indicateur moi, qui m'inquiète particulièrement pour cette année 2023, c'est celui des taux de défaillance des entreprises. Le problème, c'est que les études de la Banque de France montrent qu'il est anormalement bas.
Toujours aujourd'hui.
Alors vous avez beaucoup d'élus, beaucoup de politiques qui vous disent que c'est grâce à eux, parce que c'est formidable de voir que les entreprises ne meurent pas. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un surstock de 45 000 entreprises qui, normalement, auraient dû mourir parce que il y a un trend quand même naturel de 50 000 disparitions par an. On n'a pas eu ces disparitions-là. Ça concerne environ 300 000 salariés. La plupart des entreprises-là, quand on regarde un petit peu dans le micro-détail, on se rend compte qu'elles étaient déjà très affaiblies avant le quoi qu'il en coûte. Elles ont été anesthésiées pendant le quoi qu'il en coûte. Et malheureusement, la perfusion va être débranchée à partir de la fin de l'année quand on va rembourser les premiers PGE. Et un indicateur, en tout cas, qu'on peut maîtriser plus que n'importe quel soubresaut d'un dirigeant russe, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier quand des entreprises qui ne font plus de gains de productivité, qui ne font plus de chiffre d'affaires, vont devoir rembourser des PGE qui des fois...
Donc le mur des faillites, il n'est pas forcément à écarter.
Ce qui me fait peur, c'est qu'on, si jamais on se retrouve, on en discutait avec certains spécialistes, si jamais on se retrouve avec des suppressions, avec un stock de suppression d'emplois théorique de 2 ans et qui se passe en 3 mois, dans ces cas-là, qu'est-ce qui risque de se passer? On a mécaniquement une hausse du taux de chômage à 8,8%, et surtout on a un effet psychologique qui, parce que l'information économique se traite aujourd'hui en continu et de manière un peu légère, vous avez à avoir tout de suite le spectre de la récession qui sera affiché partout et le fait qu'on est en train de vivre une crise telle qu'on l'a pas connue depuis plusieurs années. Donc ça fait un peu plus peur parce qu'on peut un peu plus le prévoir et en agir dessus qu'effectivement un hiver nucléaire qui se déciderait à l'est de nos frontières.
Stanislas m'écrit, comme d'habitude, je vais écouter l'émission de Nicolas Dos pour prendre note des arguments qui justifient le passage en force sur les retraites. On en reparlera tout à l'heure des retraites parce que, Erwan, vous avez lu le rapport du corps et vous en avez tiré des conclusions qui m'intéressent. Bon, pour conclure sur ce sujet, François Eckhall, vous êtes dans le brouillard également.
Oh, tout le monde est dans le brouillard. Ça, je pense en effet dans la.
Moi, je me mets après à la place des gens à Bercy qui doivent boucler un budget chiffré
pour le mois de leur place.
Voilà. Parce que vous connaissez bien ce monde-là, vous avez fréquenté ces arcanes.
Je l'ai fait dans le passé, dans des circonstances parfois difficiles aussi. Mais alors là, en effet, on atteint quand même. On bat des records en matière de complexité et d'incertitude, c'est sûr.
Donc réussir à boucler un budget, à donner une prévision de croissance, une prévision de dette, une prévision de déficit, une perspective de taux à 10 ans.
C'est extrêmement difficile. Donc, Donc il faut bien faire, hein, parce qu'on est obligé.
On est obligé.
Le problème du budget, c'est qu'on ne peut pas le caler sur plusieurs scénarios. On est obligé de prendre un scénario central. Il y en a d'autres qui peuvent avoir présenté. La Banque de France, par exemple, elle a présenté plusieurs scénarios de croissance pour l'année prochaine. Mais elle le peut, parce qu'on peut multiplier les scénarios. Mais quand vous faites un budget, il n'y a qu'un chiffre de recette. Donc il y a un scénario macroéconomique. C'est très difficile.
C'est l'enfer quand même, Jean-Marc. Admettons que la place de Bruno Le Maire actuellement et de Gabriel Attal, c'est juste l'enfer.
Ah oui, oui.
Parce qu'il a complètement raison.
En termes de prévision, mais...
C'est pas en termes... On est obligé de chiffrer.
Oui, oui. Donc, ils sont obligés de présenter ça. Ils vont présenter ça devant le Parlement. Et puis après, souvenez-vous, hein, pendant la pandémie...
On fait du rectificatif.
On faisait des lois de finances rectificatives.
Modifiées, voilà, juste.
Pratiquement tous les mois. Il s'est sorti une note de conjoncture pratiquement tous les mois. Donc, il y avait une sorte d'adaptation au terrain, dans l'immédiateté. Ce que je trouve, d'ailleurs, dans la situation dans laquelle on est, et on vient d'en parler, on a des scénarios. C'est-à-dire qu'il y a encore 3-4 ans, on vous disait, bon, le taux de croissance l'année prochaine, ce sera tant. Mm. Et puis, il y a des gens, en ce moment, qui disent, écoutez, j'avais annoncé que l'inflation en zone euro serait entre 8 et 10% cette année. Voyez, j'avais raison. Ils avaient tort. Parce que, vu les informations qu'ils avaient au mois de septembre...
Quand ils le disaient, ils n'avaient pas les éléments.
Ils n'avaient pas Poutine.
J'ai pas entendu beaucoup prévoir du 8-10% avant la guerre en Ukraine. Hein. C'était plus sur temporaire, pas temporaire, mais chiffré à 8-10%.
Je ne citerai pas des noms, car je...
Vous en avez en tête, vous ?
J'ai suffisamment d'ennemis pour en pas en rajouter à la liste. Donc, je crois que c'est important. Bon. Maintenant, c'est plus de s'attarder sur les chiffres, mais sur les scénarios. Et donc, pour revenir au scénario de la Banque de France, moi, je pense, c'est ce que nous disions à 7h10, je pense que ces scénarios sont trop timorés. C'est-à-dire...
Ah ben, vous étiez sur des... Alors, dans une démarche un peu éditoriale, vous disiez, imaginons qu'on puisse faire du plus 4, voire du moins 4.
Voilà. Ou bien on rentre dans une période qui est vraiment une guerre, qui te rappelle le confinement, et donc le confinement, c'est moins 8%. Donc, ce sera... Ou bien on rentre effectivement dans une sorte de sortie heureuse de la situation, une sorte de retour à la normale, entre guillemets, et à partir de ce moment-là, on peut aller jusqu'à, non pas là aussi, je rappelle, on a fait 7%, 6,9% en 2021.
Oui,
donc,
oui, oui.
On peut retrouver, non pas les 6,9%, mais j'avais dit 4%.
Ah, mais je suis d'accord que...
Mais, sachant encore une fois que les moins 4 et les plus 4, je ne les prends pas en disant c'est un scénario. C'est
oui, la
présentation chiffrée d'un scénario. Mais l'idée, c'est ou bien ça cogne, ou bien on s'en sort.
Ah ben, c'est bon, dans notre discussion...
Et c'est Poutine qui décide.
Dans notre discussion, j'avais les deux si.
Oui.
Si la Chine repart et si l'Ukraine s'arrête, évidemment, alors on fait totalement exploser les scénarios du pays. Oui.
Juste sur la Chine, je pense effectivement vous avez raison d'assister là-dessus. On voit pas très bien ce qui se passe en Chine. Il va y avoir
Il
va y avoir le congrès du Parti communiste. On voit bien qu'il y a une espèce d'obstination du pouvoir sur une stratégie sanitaire dont beaucoup de gens disent qu'elle est suicidaire sur le plan économique. Et donc il y a des règlements de compte là aussi. Autrefois, il y avait des gens qui disaient oui, mais vous savez derrière Mao il y a machin tout ça. Là, on voit Xi Jinping, mais puis de temps en temps, on apprend que Jack Ma n'est plus en odeur de sainteté. En fait, je trouve que là aussi, on passe un peu à côté de l'information et à côté de ce qui se passe sur la deuxième économie du monde. C'est pas non plus totalement négligeable.
Je vous demanderai ce que vous pensez de l'hypothèse d'une hausse, parce qu'il y a ce que l'on ne maîtrise pas, vous disiez, effectivement, en utilisant, puis il y a ce qu'on maîtrise. Un choix de politique monétaire, c'est un choix que l'on maîtrise. La Fed peut-elle aller jusqu'à 100 points de base? Est-ce une erreur historique comme l'affirme Joseph Stiglitz? Je sais que c'est plutôt l'avis de Jean-Marc Daniel aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Je me tourne vers l'un de vous deux qui avait un déficit de temps de parole sur ce que dit Ludovic Subran dans les colonnes des Échos. Il insiste sur le fait qu'il est urgent de passer en économie de guerre et il va droit au but. Il faut refaire du quantitative easing. Est-ce qu'il a raison? Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mon intime conviction, c'est que face aux écarts de taux qui commencent à s'installer, notamment entre l'Allemagne et l'Italie, il va y avoir du quantitative easing. Croyez pas? François Eckhall.
Il ne va peut-être pas y avoir de quantitative easing. En revanche, la BCE, hein, puisqu'il s'agit d'elle, va certainement avoir beaucoup de mal à faire à revenir en arrière par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Mmh. C'est-à-dire, elle a un stock de titres publics. Je ne pense pas qu'elle l'augmente. Qu'elle
C'est ça la
du
question. Est-ce qu'elle l'augmenterait?
Je ne pense pas. En revanche, elle va le maintenir. Ouais. Elle va continuer à reprêter lorsque les obligations des États sont remboursés, elle va pas le réduire, alors qu'on pourrait se dire que elle pourrait revenir en arrière quand même. Je pense plutôt au statu quo. Voilà, oui. Je pense que le plus probable c'est qu'elle ne fasse finalement qu'elle ne fasse rien, qu'elle reste là où on est, alors que logiquement ce qui devrait accompagner la hausse. Enfin, si on pense qu'elle a raison, c'est-à-dire d'avoir une politique monétaire plus restrictive, elle devrait accompagner la hausse des taux d'intérêt par une réduction quand même de la taille de son bilan en même temps. Mais ça, je pense en effet qu'elle le fera pas. C'est ce que je dirais. Enfin, c'est beaucoup plus important pour les pays du Sud. Ce qui est beaucoup plus important pour les pays du Sud qui sont très endettés, c'est pas tellement la hausse des taux d'intérêt, c'est le fait qu'ils puissent avoir accès, en effet, au financement de la Banque centrale. Donc là, je pense qu'elle va être partagée entre les pays du Sud qui aimeraient bien, en effet, suivre la recommandation de Subran, et les pays du Nord qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. Et donc, pour moi, le plus probable, c'est le statu quo.
Bon, d'ailleurs, c'est l'information qui est restée silencieuse lors de la dernière prise de parole de la BCE. Pas un mot sur l'évolution du bilan de la banque. Ouais. Pas un mot sur le fait qu'il serait dégonflé, pas un mot sur le fait qu'il serait augmenté. C'est du statu quo tacite. Voilà. 100 points de base, une erreur historique, Jean-Marc Daniel.
Oui, je voudrais juste revenir sur l'histoire de la Banque centrale et de ce que dit Ludovic Subran. Je pense qu'effectivement, dans le quantitative easing, il y a deux composantes. Il y avait des taux très très bas et voire négatifs. Donc là, je crois que c'était excessif. Et donc, je vais revenir sur les 100 points de base. Et puis, il y avait le rachat systématique de la dette publique. Et donc, je crois qu'un des enjeux en ce moment, c'est que les taux d'intérêt en Italie sont à 4% sur le 10 ans. Sauf qu'il va y avoir des élections. Et au moment des élections...
Dimanche, au moment des élections en Hongrie,
le gouvernement hongrois avait accusé la Banque Centrale Européenne en ne défendant pas la monnaie, en n'intervenant pas sur le marché d'échange et donc en laissant baisser le cours du forint, de saboter les élections en créant de l'inflation qui menaçait l'équipe sortante. Vous avez un peu la même chose qui se passe en ce moment aux États-Unis où un certain nombre de gens accusent Powell de préparer la victoire des républicains qui l'ont nommé à la tête de la Réserve fédérale en durcissant brutalement la politique monétaire avec des conséquences qui vont se manifester d'ici 2-3 mois, donc notamment début novembre, quand auront lieu les élections de mi-terme. Donc je crois que pour les banques centrales, il y a un vrai enjeu, c'est effectivement éviter que les États ne fassent banqueroute, et là Ludovic Subran a raison, il faut effectivement répondre aux attentes des pays du Sud, en tout cas leur dire les choses clairement, mais il faut qu'elles le fassent avec doigté sur le plan politique, parce que systématiquement on lui dit, mais là vous avez aidé tel groupe, là vous avez aidé, sa crédibilité va être menacée. Et donc je reviens aux 100 points de base de la
100
réserve.
Points de base, je rappelle, la Fed va se prononcer aujourd'hui, on se dit ce seront comme la fois dernière 75 points de base, mais il y a pas mal de voix qui se disent, ouais ben les 100 sont pas, donc alors, le 1% n'est pas impossible.
J'ai toujours défendu l'idée que les taux d'intérêt négatifs c'était aberrant, qu'il fallait faire remonter les taux d'intérêt. Maintenant, il faut pas les faire remonter. On va pas atteindre les niveaux de la Russie ou de la Turquie en disant comme ça on pourra avoir un taux de choc qui va s'apprécier.
Oui, on est à 2,25 aux États-Unis, on n'est pas à des niveaux turcs.
Oui, non, j'entends bien. Mais l'important, c'est la bonne vieille règle, le taux d'intérêt égale taux de croissance, est-ce qu'on s'approche, et donc aux États-Unis, on est à des taux à 10 ans qui sont à 3,5% maintenant, et en Europe, effectivement, on commence à avoir des taux d'intérêt sur l'Italie 4%.
Nous, 2,5.
Nous, 2,5, on n'est pas loin de la taux d'intérêt égale taux de croissance. Et en outre, je pense, et là je rejoins...
Taux d'intérêt nominal égale taux de croissance nominale.
Voilà, absolument. C'est ça, absolument. Ouais. Alors, évidemment, dans la croissance nominale, c'est des hypothèses d'inflation. Il faut avoir une hypothèse d'inflation structurelle. Ne pas prendre l'inflation telle qu'elle est en ce moment. Et là, je rejoins ce que dit Stiglitz, même si ça peut paraître surprenant compte tenu des positions globales que nous prenons, lui et moi, sur les problèmes à la fois politiques et économiques. Stiglitz dit bien, cette inflation est une inflation qui n'est pas une inflation de celle des années 70, avec des excès de crédit et qu'on ne peut pas juguler par une hausse des taux d'intérêt. Donc, et alors, là, que dit Krugman en face? Il dit, écoutez, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, parce que la pire chose qu'elle pourrait faire, les banques centrales, c'est rien. C'est-à-dire, leur crédibilité, c'est qu'elles sont une réponse. Et donc, il faut qu'elles apportent une réponse. Ce que je crains, c'est qu'à vouloir apporter une réponse, elles apportent une mauvaise réponse.
100 points de base, c'est pas le jour pour le faire, en tout cas, voilà. C'est ce que vous me dites, et c'est peut-être le jour de ne rien faire. En tout cas, c'est ce que dit Stiglitz. Il dit, on est arrivé à un niveau d'inflation aux États-Unis où elle va se résorber par elle-même.
D'ailleurs, c'est en cours, oui.
Ah oui, c'est vrai que c'est en cours.
Et au Canada aussi, bon. On commence à le voir dans certains pays d'Europe.
On marque une pause.